Avant de répondre à des questions, je voudrais vous lire ce qui pourrait s'appeler un résumé de ce matin. La vie d'union à Dieu, à notre Seigneur, dans son fond le plus intime, c'est la vie de la grâce reçue au baptême, et qui s'épanouit librement dans une âme purifiée du péché et dégagée d'elle-même. C'est pourquoi j'ai parlé du détachement, de la désappropriation, de ne tenir à rien. Le développement de cette vie d'union s'opère avant tout par l'exercice des vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité. Il nous faut absolument avoir la foi, croire en sa parole et la mettre en pratique. Espérer dans toutes les promesses du Seigneur et d'exercer cet amour de charité que l'Esprit-Saint a déposé en nos cœurs. Par la grâce, donc par l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes radicalement unis à Dieu notre Seigneur. Par les vertus qui sont des facultés, des puissances d'action. La foi, ce sont des actes que l'on pose, des actes d'espérance et de charité. Il y en a parmi vous, quand vous étiez petit, vous avez dû apprendre ça dans votre catéchisme, les actes de foi, d'espérance, de charité. On l'apprenait par cœur, mais est-ce qu'on comprenait très bien qu'est-ce que ça signifiait? Par la pratique de ces vertus, nous devenons capables de pouvoir vivre cette union avec notre Seigneur. Mais c'est toujours dans la foi. La foi nous fait connaître Dieu, mais connaître, ont un sens ici profond de entrer en contact intime avec le Dieu vivant. Connaître ses attributs, ce qu'il est, sa bonté, sa miséricorde, son amour. Nous vivons dans la persuasion et le désir de posséder Dieu par l'espérance en la vie éternelle. J'espère en la vie éternelle. Je crois en la vie éternelle. La charité nous unit par des sentiments réciproques et par une communauté de vie. D'où doit surgir une véritable relation de vie fraternelle entre les personnes. Ces trois vertus sont les vertus spécifiques de la vie d'union à Dieu. S'exercer à les mettre en pratique nous assure une croissance et une augmentation de grâce et un parfait épanouissement. Mais ça se mesure pas. Ça peut se mesurer dans le sens suivant, cependant. C'est l'expérimentation d'une façon régulière et, je dirais, presque constante de la paix de l'âme. La paix de l'âme, c'est un don précieux qui nous permet d'exercer avec efficacité les charismes et les dons. N'oubliez jamais ça. La paix de l'âme est un des signes importants et distinctifs. Tout à l'heure, je vais y revenir parce que je vous parlerai de c'est quoi entendre l'Esprit nous parler. Je vous parle dans le moment. Je m'imagine que l'Esprit Saint doit un peu vous parler. Moi, je fais mon acte de foi de vous parler et d'y faire confiance, qu'il me donne les mots qui vont toucher votre cœur, éclairer votre intelligence. Entre parenthèses, je vais vous en compter une bonne, si vous voulez en savoir une bonne. C'est des touches de l'Esprit Saint. Je proclamais la parole à une télévision dans le bout de hall. Ça durait une heure, puis j'avais des lignes ouvertes après. C'est la manifestation de l'Esprit Saint. On l'expérimente, on est tout surpris, puis en même temps, on est tout heureux que ça arrive. Je m'étais préparé comme ça pour faire la proclamation, comme j'avais toujours l'habitude. Mais je me suis servi très peu des textes qui étaient là, puis c'est comme s'il y avait une main qui venait sur ce bord-là, puis une main qui venait sur ce bord-là. Je vous dis pas que je voyais la main. C'est comme si je la voyais. Et le texte arrivait avec. Puis avec une clarté telle que j'avais pas besoin de chercher mes mots pour donner le texte, qui correspondait au sujet que je parlais. Puis c'est pas parce que j'étais saint du tout. Mais la bonté du Saint-Esprit, comment il peut opérer de bien des façons? On dit que ça vient du dedans, mais ça peut venir du dehors. Comme ça peut venir par une personne qui dit un seul mot, puis qu'arrive une lumière vraiment splendide, puis on dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas pensé ça avant? C'est ça l'agir du Saint-Esprit. C'est ça la grâce prévenante qui vient nous aider pour mieux pratiquer les vertus. C'était ma parenthèse. Parce que là, il paraît qu'il y a des personnes qui ont des questions à me poser. Puis après, je viendrai vous parler comment entendre l'Esprit-Saint nous parler au-dedans. Alors, on m'a dit qu'il y avait une couple de questions. Oui, vous allez vous lever, puis vous allez parler pas trop vite pour que tout le monde entende votre question.
Lorsqu'on est dans un mouvement de prière, est-ce que quand quelqu'un parle en langue, parce que j'ai lu dans Saint Paul de 12 ou 14 que quand quelqu'un parle en langue, il faut être environ deux ou trois personnes qui parlent, pas plus. Mais lorsque l'on prie en langue, est-ce qu'il faut avoir un interprète? Comme quand quelqu'un donne une prophétie en langue, est-ce qu'il faut avoir un interprète?
C'est une très belle question, puis ça donne bien que j'ai le texte proche que je me suis déjà servi. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est assez clair, là. Je désire que vous parliez tous en langue. Il ne dit pas, par exemple, mais pas tout en même temps, premièrement. Mais plus encore que vous prophétisiez. Entre parler en langue puis prophétiser, on prophétise dans notre langue. Donc, pour comprendre les paroles qui vont être prononcées, pour les mettre en pratique. Le prier en langue n'est pas le parler en langue. Saint Paul, quand il parle du don des langues, il parle du prier en langue, du parler en langue. Alors écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Mes frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langue. En quoi vous serai-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement. Ainsi en est-il des instruments de musique inanimés, flûte ou cithare. S'ils ne donnent pas distinctement les notes, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la cithare? Et si la trompette n'émet que des sons confus, qui se préparera au combat? Ainsi de vous, si votre langue n'émet pas de paroles distinctes, ça veut dire des paroles qu'on comprend, qui sont dans notre langue, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Donc, en assemblée de prière, si quelqu'un arrive dans l'assemblée, puis il part comme une trompette pour, sous prétexte qu'il donne des langues, puis il part à haute voix. Je vous dis ça parce que c'est des expériences que j'ai eues. Puis des fois avec des gens qui étaient assez haut placés dans le mouvement charismatique. Puis en privé, j'étais obligé d'aller les voir pour leur dire, écoutez, ça se fait pas. C'est pas le Saint-Esprit qui vous a poussé à faire ça, c'est votre vanité. Le don des langues, c'est un don de prière. C'est un don de louange. Je vais continuer parce que, pour bien vous montrer. Alors, vous parlerez en l'air. Il y a de par le monde, je ne sais combien d'espèces de langues. Et rien n'est sans langage. Mais si j'ignore la valeur des sons, je ferai l'effet d'un barbare à celui qui parle, parce que je vais parler une autre langue. Et celui qui parle me fera à moi l'effet d'un barbare. Ainsi donc, vous aussi, puisque vous aspirez au don spirituel, cherchez à y exceller pour que l'assemblée en tire édification. Comment? C'est que la parole prophétique, c'est pour édifier ceux qui nous entourent. C'est pour que la parole soit comprise par tous. Et le parler en langue, il va être compris par personne. Bien sûr, je sais que vous allez m'arriver, vous allez me dire, « Oui, mais s'il y a un interprète, ah, voilà, ça, je vais venir. » C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter. Car Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Ah! C'est une vérité, ça. Si je prie en langue, je sais pas si je parle en langue, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Dans un coin des États-Unis, des bénédictins, il y a plusieurs années, ont fait l'expérience du prier en langue quand il rentrait au cœur des religieux. Le prier en langue, au tout début, quand on en fait l'expérience, le Saint-Esprit permet qu'on ait une grande joie qui nous envahit. C'est l'effet de sa grâce. Mais avec le temps, si vous priez en langue, vous ne goûterez rien. Rien du tout. Seulement, il se produira un effet dans votre âme de tranquillité et de paix. Je vais le faire à haute voix, là. Quand je fais ça en silence, ça procure la paix de l'âme. Ça nous permet de mieux entendre la voix de l'Esprit-Saint. Mais, savez, je risque de m'étendre, donc je reviendrai, mais je veux continuer le texte, là. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Il faut être assuré de ça. D'ailleurs, le Seigneur, au tout début, par la bouche de Saint Paul, va venir dire, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voyez la grande utilité de prier en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Personne, en effet, ne le comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier ici lui-même, c'est de construire la foi, l'espérance et la charité dans le cœur. Là, je vous fais remarquer, le prier en langue, c'est l'équivalent de faire des oraisons jaculatoires ou de dire son chapelet, je vous salue Marie, un après l'autre, tranquillement. Vous chercherez pas à tout comprendre les mots que vous allez dire en priant, je vous salue Marie. L'Église, elle va dire, méditez sur un mystère. Mais même encore là, c'est pas toujours facile. Mais le fait que vous priez tranquillement, la paix de l'âme s'installe. Quand vous priez en langue, c'est le même phénomène qui se produit, mais vous n'êtes pas distrait par l'effort de penser ce que vous allez dire. Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est en langue. Vous n'avez même pas à vous préoccuper de savoir qu'est-ce que vous dites. Vous devez savoir par la foi, parce que c'est la parole qui nous l'enseigne, que quand vous priez en langue ou que vous parlez en langue, vous vous adressez à Dieu. Ça, c'est certain. Comprenez-vous, là? Même si vous comprenez rien, puis même si vous sentez rien, vous parlez à Dieu. C'est la parole qui nous l'enseigne. Retenez ça, c'est important. Le don des langues n'est pas le plus petit des dons, comme écrit beaucoup de livres et même de bons théologiens. Je vais les respecter pareil, mais je suis pas d'accord avec eux. Pourquoi comparer les dons qu'il y en a un plus grand que l'autre, puis titi patata? Non. Le Seigneur qui a donné ce don comme les autres, c'est un don qui ouvre la porte aux autres dons. Le don des langues, quand on s'en sert et qu'on prie, il ouvre la porte à d'autres dons. Il ouvre la porte à entendre des paroles en français en dedans de notre cœur. Il nous aide à découvrir quel esprit anime telle personne à un moment donné. On n'a pas à chercher ça. C'est l'affaire du Saint-Esprit, mais c'est lui qui fait ça. Voyez-vous qu'on est toujours dans le domaine de la foi, là, quand je vous parle de la parole, quand je vous parle même du don des langues, ça touche à la foi en la parole. Ou tu crois à la parole, ou tu y crois pas. Mais c'est ce que la parole nous enseigne. Alors, Saint Paul, il disait, Par-dessus tout, je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. C'est ici qu'il rentre le don d'interpréter. Il peut arriver sous le souffle de l'Esprit-Saint. Il ne faut pas que ça soit décidé d'une volonté personnelle. Je vais lui donner un message en langue. Non. J'ai vu ça aussi dans le mouvement charismatique. J'animais une assemblée de prière, puis des personnes qui étaient ailleurs étaient venues, puis deux, une s'était mise sur un bord, puis l'autre s'était mise sur l'autre bord. Puis à un moment donné, un a fait signe à l'autre. Comme ça, là, devant ma face, là, devant ma figure, là. Je l'ai bien trop vu, là. Alors, un part en langue comme une mitraillette, puis elle arrête, puis elle fait signe à l'autre. L'autre sort une chose en français. Comme ça! C'est des choses qui ne doivent pas exister dans le mouvement prière. C'est des affaires qui ont brisé des groupes de prière, des gens qui se sont imposés, qui sont mis par-dessus les autres, qui sont pris pour je ne sais pas qui, puis qui ont fait des affaires comme ça. Alors, moi, je suis arrivé, puis je suis allé donner des cours sur le discernement pour leur dire qu'il ne faut pas prendre tout ce qui se passe pour le Saint-Esprit, non. C'est pour ça que je vous ai parlé de la conversion du cœur ce matin, puis de l'importance du détachement, de tenir à rien, mais de tenir à servir d'instrument au Seigneur quand il le veut, comme il le veut, aussi longtemps qu'il veut. Ça devient soufflant des fois. Je continue. Et maintenant, frère, supposons que je vienne chez vous. Bon, je vous avais lu, dit ça. Il dit, si j'arrive pas puis que je donne l'enseignement à l'Assemblée, qu'est-ce que les gens vont faire? Si votre langue n'émet pas de paroles distinctes, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Alors, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Écoutez bien ça. Mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je prierai avec l'esprit veut dire que mon esprit est en prière quand je prie en langue. Et puis, je prierai aussi avec l'intelligence. Seigneur Jésus-Christ, prends pitié de moi qui suis pécheur. J'ai prié avec mon intelligence, puis avec mon cœur. Mais j'ai fait une prière. Mais je l'ai faite pour que tout le monde l'entende. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il dit, je dirai un hymne avec l'esprit. C'est arrivé que chanter en langue, c'est un hymne qui est sorti. Puis quelqu'un est arrivé après, d'ailleurs, on va l'expérimenter tout à l'heure. Puis un est arrivé, puis il y a eu des paroles, où ça a été des paroles de louange, « Tu es grand Seigneur, il n'y a pas plus grand que toi, etc. » C'est bon. Ensuite, « Autrement, si tu ne bénis qu'avec l'esprit, » ça veut dire en langue, « Comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce? » Il pourra pas puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Alors, saint Paul ajoute, en parlant du don des langues, ton action de grâce, certes, est excellente. Voyez-vous ici qui vient dire que le don des langues, c'est l'équivalent d'une action de grâce quand on le formule, qu'on le prie. Si au sommet du Solomon, je peux le faire tout bas, je peux le faire dans ma chambre chez nous. C'est une prière. Je peux le faire en lavant la vaisselle et vous expérimenterez la paix de l'âme. Mais, et puis votre esprit sera en prière. Mais les autres, ils sont pas là. Puis discrètement, vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous êtes après prier en langue. Ils vont dire, tu chantes donc bien. Mais, pas plus que ça. Mais l'effet de la grâce, c'est l'effet paisible et de tranquillité intérieure qui se produit en entendant ces chants quand ils viennent de l'Esprit. Ton action de grâce, certes, est excellente, mais l'autre n'en est pas édifié. Ça serait dans l'assemblée. C'est pour ça qu'on ne doit pas prier à haute voix en langue dans une assemblée de prière. Il faut drôlement être certain que c'est l'Esprit Saint qui nous y pousse, parce que ça veut dire qu'après, il devra y avoir l'interprétation dans la langue de tout le monde. Vous comprenez bien ça? C'est bien important, parce que ça, il y a eu des extravagances là-dessus qui se sont faites. Et c'est arrivé dans le temps des Corinthiens avec saint Paul. Il est obligé d'intervenir parce que les Corinthiens, ils n'étaient pas des cadeaux à des moments donnés concernant l'exercice des dons, vous savez. Je trouvais ça tellement fun, plaisant, mais de l'ordre. C'est pour ça que vous allez entendre saint Paul parler d'avoir de l'ordre. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Saint Paul, parler en langue plus que vous tous. Quand je vois des livres qui disent « c'est pas important le don des langues », laissez donc ça de côté. Quand on est rendu assez haut en perfection, on n'a plus besoin de ça. C'est des blagues. C'est pas vrai. Les contemplatifs, les gens qui ont des temps d'oraison, puis vous autres, vous êtes invités en enfer aussi, même comme laïcs. Il y a des moments de sécheresse dans nos temps de prière. On vient presque distrait, et puis on ne sait plus quoi dire au Seigneur. De toute façon, il sait tout, hein. Mais là, si le Saint-Esprit vous inspire de prier tout bas en langue, vous verrez la différence. Ça va vous faire entrer dans l'esprit de recueillement, puis vous allez trouver plus abordable et plus facile votre temps d'oraison. C'est ce que les bénédictins aux États-Unis font régulièrement. Parce que dans la vie spirituelle, il y a des moments de sécheresse, il y a des moments d'obscurité, il y a des moments de ténèbres. On a l'impression d'être dans l'abîme. Thérèse de Calcutta, celle qui a été béatifiée, est sortie il n'y a pas longtemps un livre en vue de la canoniser. Et dans ce livre, celui qui a préparé sa cause vient raconter presque toute sa vie. Cette sœur, cette religieuse, a été dans la plus grande des obscurités de la foi. Assez qu'elle se demandait si elle avait encore la foi. Et elle s'exerçait à des pauvretés et à des misères humaines. Puis toujours le sourire. Et pourtant, elle raconte que c'était la plus grande des obscurités. Donc, c'est possible que le Seigneur permette à des âmes de passer par des chemins semblables, mais c'est des purifications pour s'approcher de Dieu et pour s'unir plus étroitement, puis être plus fort pour exercer la charité à l'égard des autres. J'espère que vous retiendrez ce qui est important. Croire à la parole. Croire que ce que saint Paul a dit, c'est pas de la farce, c'est sérieux. Le don des langues, c'est un don de prière, c'est un don de louange, c'est un don d'action de grâce, c'est un don de demande aussi. Alors, il vient dire, ne vous montrez pas enfants en fait de jugement. Des petits-enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement, montrez-vous des hommes mûrs. Pourquoi qu'il a dit ça? Il faisait allusion au don des langues. Si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, prophétiser, c'est parler dans la langue des gens qui sont dans le groupe de prière. C'est ça que ça veut dire. Hein? Le voilà repris par tous, jugé par tous. Pour quelqu'un qui connaît rien de ça, il rentre, il veut voir qu'est-ce que c'est qui se passe là. Mais il croit pas tellement. Puis il en masse des problèmes. Mais il dit, je vais aller voir. Hein? Des fois, il est invité par un autre, puis il vient dans le groupe de prière. Qu'est-ce qui arrive? Saint Paul dit, les secrets de son cœur sont mis à nu. Alors, tombant la face contre terre, il adorera Dieu en proclamant que Dieu est réellement parmi vous. L'importance de la prophétie, ça vient parler au cœur de l'homme, quand c'est l'Esprit Saint qui inspire les paroles. Alors, il dit, que conclure, frère? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation, que tout se passe de manière à édifier. Édifier veut dire construire la foi, l'espérance, la charité dans les cœurs qui entendent. Ça suppose qu'il faut parler dans la langue du peuple qui est là, édifier là. Le mot édifier, c'est pour, ils vont comprendre ce que vous allez dire, ils vont savoir qu'est-ce que le Seigneur vient vous dire à votre cœur. Parle-t-on en langue, que ce soit le fait de deux ou trois tout au plus, et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète. Je dois vous avouer qu'en 35 ans, je ne l'ai jamais vu trois dans une assemblée. Une fois, rarement, le message en langue, qu'on dit message en langue, puis d'être traduit dans la langue pour le comprendre après. C'est très rare. Parce que la parole prophétique est là pour édifier. Et l'interprétation, c'est pour donner dans la langue de ceux qui sont là, pour le comprendre, pour être édifié, quand ça a été mis dans une autre langue. C'est arrivé, des gens arrivaient de l'Inde, deux religieuses, une qui était novice, puis une qui était religieuse, faisait longtemps, qui était arrivée dans un groupe d'à peu près 170 jeunes. Alors, là arrive le phénomène spécial du Seigneur qui vient nous jouer des tours, c'est que il est arrivé un prier en langue par tout le monde, chanté. Et tout d'un coup, le chant s'est arrêté. Puis il y en a seulement qu'un à l'assemblée qui a continué à chanter. Et tout de suite après est arrivée l'interprétation en français. Mais c'est un miracle, parce que la religieuse qui était là, la novice, elle ne croyait pas aux dons, et en particulier le don des langues. Elle disait, c'est du spectacle. Mais là, elle a entendu le don des langues chanté par le monsieur qui était là. C'était un chant indien qu'il chantait là-bas. Les mots exactement pareils, mais nous, on ne savait rien de ça. Mais elle était renversée d'entendre ce chant indien, puis elle pouvait nous dire en français qu'est-ce qu'il voulait dire. Et ça, c'est arrivé. Le bon Dieu, il est bien prêt à faire tout ce qu'il veut. Mais je dis que nous, en 35 ans, rare les fois qui est arrivé, ça doit pas être commandé, comprenez-vous? Aujourd'hui, on marche beaucoup avec des commandes. C'est pas commandé. Faut faire attention à ça. Ce qui est important, c'est que soit développé le don de prophétie qui est dans notre langue, puis s'il arrive que vraiment Saint-Esprit pousse quelqu'un à prier en langue, à haute voix, ou à chanter en langue, ça pourrait arriver, eh bien, qu'on sache attendre et que viennent les paroles en français pour nous dire qu'est-ce que bon Dieu a voulu nous dire. C'est probablement ce qu'on va faire. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais parce que ça, c'est très délicat. À la fois, il faut vous assurer, le don des langues n'est pas le plus petit des dons. Il est un don parmi d'autres dons. Mais il est un don qui ouvre la porte à la pratique de d'autres dons. Du charisme de guérison, de lire d'un cœur, donc ça touche à la prophétie. Vous voyez? Et puis, qu'on découvre les esprits, il nous est arrivé de faire des exorcismes dans le passé sans qu'on court après, puis le Seigneur vient nous donner de nommer les esprits qui habitent la personne. Et on en voit les effets assez rapidement, mais j'ai eu à prier en langue tout le temps d'un exorcisme qui a duré, je pense, 45 minutes, mais où j'ai dû prier en langue constamment pour que je puisse entendre les paroles qui arrivaient, pour les nommer. Ce n'est pas impossible à personne. Dieu veut procurer à son peuple ses bontés, ses merveilles, ses cadeaux. On n'a pas à lui refuser, mais on a à disposer notre cœur, notre terre, notre âme, pour qu'il fasse tout ce qu'il veut. Je pense que ça serait bon. Je vais partir le premier en chantant en langue. Libre à vous de partir pour ceux qui peuvent le faire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent pas le faire, vous avez juste à ouvrir votre bouche puis laisser sortir les sons en chantant. Puis vous aurez des surprises. Daigne, Seigneur, recevoir l'offrande de ta louange pour la plus grande gloire de ton nom, pour le bien de tous les cœurs qui sont ici présents, et pour que nous puissions te proclamer hautement comment tu es bon, comment tu aimes l'homme et la femme, et que tu veux son bien, son salut.
O Seigneur, au salut, au Dieu, au bénis, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, vraiment moi qui prie par ta bouche. C'est vraiment moi qui inspire ton cœur à me louer et à me bénir et à agir comme une toute petite en ma présence. Je veux que tu sois sensible à ces inspirations que je dépose dans ton cœur pour me prier en tout temps et en tout lieu, pour laisser ton cœur s'élever vers moi et me parler comme un petit parle à son Père du ciel, comme un petit parle à sa mère qu'il aime. Mon esprit est à l'œuvre à ton cœur et il veut te simplifier, t'apprendre à vivre au jour le jour, sans t'inquiéter pour le lendemain, sans te tracasser pour ce que les autres pensent de toi, sans t'inquiéter pour ce que tu auras à vivre demain. Car je te le rappelle, demain s'inquiétera de lui-même, et c'est le moment présent que je veux que tu vives dans la joie, en ma présence. Parole de ton Seigneur qui t'aime et qui t'instruit pour apprendre à vivre dans l'Esprit Saint, à renaître d'en haut, d'eau et d'esprit. Parole de ton Seigneur qui t'aime et qui te conduit à travers les épreuves de cette vie.
Là, vous avez un exemple. On a chanté en langue, mais on a eu un message. Je dis pas la traduction, c'est l'interprétation. C'est un peu le sens que saint Paul va y donner, qui surgit à travers notre chant. Il est libre de faire ce qu'il veut et comme il veut. Voici ce que l'Esprit nous a appris au long de toutes ces années, ensemble, comme expérience dans la vie de l'Esprit-Saint. C'est comment entendre l'Esprit-Saint nous parler. L'habitude à prendre pour discerner et prophétiser. Le frère prie en langue en son cœur. Donc, c'est pas à haute voix. Dans une attitude d'écoute, sans rien chercher, sans chercher à composer avec son intelligence. Mais il demeure à l'affût du souffle de l'Esprit, de la moindre parole qui vient de Dieu. Quand surgit un mot ou une parole, il continue à prier intérieurement en langue, sans chercher à retenir ce mot ou cette parole. S'il est en assemblée, il cède humblement à l'Esprit en donnant à haute voix ce mot ou cette parole entendue en son cœur, afin que ce qu'il reçoit soit vérifié, discerné, sur le champ et par tous. Ça, c'est du saint Paul tout cru, dit autrement. Et s'il est seul, il l'écrit afin de le faire vérifier par la communauté ou l'assemblée, et qu'ainsi soit préservé de son propre esprit ou de l'empire des ténèbres. Vous voyez qu'à l'intérieur de juste ce petit bout-là, il y a une question de soumission à l'assemblée ou à l'autre. Ce que je vous ai parlé cet avant-midi, la fameuse question de la soumission. S'il y a peu de charisme qui éclate, c'est fort probable que peu cherchent à se soumettre à des choses qui leur arrivent. Quand la parole vient du Seigneur ou de son envoyé, de son ange, parce que c'est saint Thomas qui va parler, que les paroles qui peuvent vous venir viennent par l'intermédiaire d'un ange, par le ministère des anges. Puis on retrouve ça dans les Écritures un peu partout. Quand la parole vient du Seigneur ou de son envoyé, de son ange, la parole est claire, limpide, simple et vient sans effort, sans contribution de l'intelligence humaine. Cette parole réjouit le fond du cœur et le fortifie. La parole peut venir lentement, c'est-à-dire mot à mot, ou elle peut venir par petits bouts de phrases, ou comme un fleuve. Dans un cas comme dans l'autre, l'attention doit être à écouter dans l'attente et prêt à donner des paroles dans la paix dès que le souffle de l'Esprit se manifeste. Sans précipiter et sans précéder les paroles, lorsqu'en particulier elles arrivent lentement, parfois très lentement. L'expérience au début que certaines personnes peuvent expérimenter, c'est que le bon Dieu va permettre que les paroles viennent très lentement. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi le prophète guette la venue du Seigneur. Il est patient. Il est certain qu'il viendra à son heure. On marque le mot prophète parce que on parle de prophétie. Donc, l'homme ou la femme prophète, c'est que le Saint-Esprit vient donner des paroles au cœur. Il sait que le lever du soleil ne dépend pas de lui, mais de Dieu. Ainsi en est-il pour la parole prophétique. Ce n'est pas le prophète qui la souffle à son propre esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui, par sa grâce, la dépose en son cœur et la met sur ses lèvres. Lorsque les premiers mots viennent, il faut les donner, quand on est assemblé, ou les écrire lorsqu'on est seul, et au fur et à mesure, d'autres mots viennent et s'ajoutent. Seulement, si vous ne donnez pas les premiers mots que vous avez eus, les autres ne viendront pas. Cependant, je peux vous dire que quelqu'un peut se réveiller le matin, puis ça ne fait pas 2 secondes, puis arrive un petit mot. Par exemple, « Oui, attends encore 1 an. » Mais la personne avait demandé au Seigneur hier, « Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis mal pris. » Moi, personnellement, un matin, j'ai été réveillé 6 heures tapant, comme si quelqu'un m'avait parlé à l'oreille. « Plus vite tu mourras, plus vite tu viendras me rejoindre. » C'est tellement clair que ça vous réveille d'un coup sec. Mais c'est vrai, tout est possible. Je vous dis, dites pas pour moi, non, non. Le Seigneur, s'il est venu me trouver, il va aller en trouver pas mal, une grosse gang parmi vous. Certain. Parce que c'est gratuit ce qu'il fait. Puis, on a tendance à oublier ce qu'il fait à notre cœur. Puis, c'est pas parce qu'on est plus fin qu'un autre qu'il vient nous visiter ou qu'il se sert de nous. On a de quoi s'humilier davantage parce qu'on n'a pas toujours bien servi Seigneur. Bon, je continue. Je vous disais, si on ne donne pas les premiers mots ou si on ne les écrit pas, les autres mots ne viendront pas non plus. C'est comme quelqu'un qui prend une boîte de mouchoirs en papier, ce que l'on appelle familièrement des Kleenex. Il tire le premier mouchoir et l'autre vient de lui-même et sort légèrement de la boîte, et ainsi de suite. Mais c'est la personne qui tire le mouchoir. Pour le prophète, c'est lui qui ouvre la bouche et donne le premier mot, afin que le reste vienne. Il n'y a pas de raisonnement à faire pour savoir comment tirer un mouchoir de la boîte, pour qu'il en vienne un autre. C'est en ce sens que l'intelligence n'a pas besoin d'intervenir. Cela va de soi. Cependant, celui qui prophétise ne doit point raisonner, ni analyser, ni même juger par lui-même de la parole qu'il proclame à haute voix ou de la parole qu'il écrit. Et il doit faire une démarche de foi dans la droiture de son cœur et donner ou écrire les paroles qui lui viennent au cœur dans la paix, au fur et à mesure qu'elles arrivent. S'il n'y a qu'un mot, il le donne ou l'écrit. S'il y a un silence, il attend patiemment en priant langue et il continue à prophétiser lorsque les mots suivants arrivent. Toujours le prophète doit agir avec droiture et confiance. Confiance en Dieu et confiance en ses frères qui sont autour. Quand on est assemblé, quand on est assemblé de prière, il peut arriver. La gêne de parler, c'est parce qu'on a peur de se tromper ou on a peur peut-être de se faire rire de soi. Faut mettre ça dans la poubelle, ces affaires-là. Désirer ardemment servir d'instrument entre les mains du Seigneur pour sa gloire, pour le bien des âmes qui écoutent, c'est d'exercer la miséricorde. C'est de déverser des grâces sur ceux qui écoutent, qui entendent. Bon, c'est dans cette soumission mutuelle que s'affermissent les charismes de prophétie et de discernement. C'est ainsi que la parole de l'Esprit-Saint touche et travaille, illumine et réchauffe les cœurs des serviteurs de Dieu et de toutes les âmes qui l'accueillent dans la foi. Il arrive aussi de recevoir en son cœur comme une idée globale de ce que le Seigneur veut faire proclamer par notre bouche en assemblée. Et cela avant même d'attendre un seul mot au-dedans de notre cœur. Ça peut arriver. Mais il faut être plus attentif et plus prudent. C'est comme si l'Esprit du Seigneur, avant même de nous donner des mots à proclamer, nous donnait à un instant comme une espèce de flash tout ce qui allait être contenu dans la parole prophétique. Il faut cette certitude au fond du cœur. Quand on n'est pas certain, on bouge pas. On se tient tranquille. On n'est pas certain, on se tient tranquille. on reste dans la paix. Les âmes qui acceptent ces petites conditions au fond de leur cœur, ils vont voir des beaux miracles. L'important est d'être homme, femme de désir, c'est-à-dire de désirer humblement et simplement être un instrument docile entre les mains du Seigneur et de ne pas mettre obstacle à la manière dont lui veut bien nous utiliser et manifester sa gloire. C'est ça que j'avais à vous dire.
Amen.
Amen. Oui, ben, vite vous, oui. Bon, voyez, là, vous avez un exemple. Vous avez un exemple. Je ne vous blesserai pas en disant ça. Vous avez un exemple de quelqu'un qui raisonne, qui se pose la question. Il ne faut pas la poser, la question. Quand vous êtes en assemblée, il vous arrive deux mots, levez-vous debout et donnez tout de suite les deux mots. Posez-vous pas la question, comment je vais savoir si c'est bien vrai ou si c'est pas vrai? Vous allez le savoir assez vite. Parce que il viendra plus rien d'autre. Il viendra plus rien d'autre, puis là, vous allez vous débattre pour chercher des mots. Tandis que quand c'est l'Esprit-Saint qui vient donner les mots, vous allez avoir un mot ou deux mots. En les donnant, les deux autres vont arriver. Puis c'est la paix de l'âme qui s'installe. Comment savoir la paix de l'âme? Quand il y a un paquet de questions là, vous êtes mieux de rien faire. Jusqu'à temps que le Seigneur vous libère de ces fameuses questions. Oui?
Juste comme petite précaution, quand on est à une assemblée, il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans l'assemblée. Si ce que vous recevez dans l'esprit, comme parole, ça vous distrait de ce qui est en train de se vivre au niveau de la prière et de l'enseignement, occupez-vous-en pas. Rejetez ça.
Bon, là, faut expliquer, là.
Oui.
Faut expliquer. Alors, regardez bien ça. Là, c'est toujours le même principe. Je vous ai dit, cet avant-midi, je vous ai dit, un signe que quelqu'un peut entendre, il va entendre la parole au fond de son cœur, c'est qu'il a l'habitude d'écouter ceux qui l'entourent. Supposons que vous êtes en assemblée, puis qu'il vous arrive deux mots au-dedans. Puis, vous étiez juste avant d'avoir ces deux mots-là, vous n'écoutiez pas ce qui se disait dans l'assemblée. Par exemple, une proclamation de la parole. Celui qui prêche en avant, normalement, on doit écouter ce qu'il dit. Mais voici que moi, j'ai décidé... Je vais essayer d'écouter Saint-Esprit au fond de mon cœur. Alors que celui qui est en avant parle. C'est dans ce sens-là qu'il dit, ne vous en occupez pas. Parce que vous étiez distraite. Vous écoutiez pas ce qui se disait en avant. Comprenez-vous l'idée? Bon. C'est ça. Ça, c'est des signes. Il faut être attentif. D'ailleurs, je l'ai lu dans le texte tout à l'heure. Il faut être attentif et être à l'écoute au-dedans. Mais il faut l'être au-dehors. Si il y a un enseignement, mais supposons que vous êtes en prière, ah là, vous n'avez pas à écouter au dehors, vous êtes en prière. Puis vous arrivent les mots, posez-vous pas la question pour savoir, es-tu bien sûr? Regardez l'effet dans votre âme. Est-ce que ça vous réjouit? Ça vous met en paix? Est-ce que votre désir, c'est de vraiment proclamer le Seigneur? Ah ben, si vous voulez montrer aux autres que vous savez quelque chose. Parce que ça aussi, ça existe, ce qu'on appelle l'instinct vaniteux, caché. N'importe qui peut être pris par cette petite bébite-là, à un moment donné. La vanité. Ah ben, la vaine gloire. Ça peut arriver. C'est pas que la personne le veut, mais il y a des personnes, c'est plus fort que d'autres. Sans nommer le nom, là, puis personne, il est pas ici. On a quelqu'un qui arrive, puis il faut toujours qu'il se vante. Il est toujours meilleur que tout le monde. Ça, là, c'est un problème. Mais la personne ne s'en aperçoit même pas. Il faut qu'on soit capable de l'apprendre tout seul, puis d'essayer tranquillement, délicatement, de lui faire comprendre qu'elle se met toujours en avant de tout le monde, puis elle englobe tout le monde. C'est moi qui prends place ici, tu sais? Ça, c'est nuisible à l'action du Saint-Esprit. Donc, quand je vous ai dit ce matin qu'il est bon de faire un examen dans son cœur pour regarder les mouvements de notre cœur, sur quel bord qu'il penche, c'est sur le bord de la gloire de Dieu qu'on veut à tout prix être instrument de sa gloire, oh bien, si je veux montrer en même temps aux autres que je suis capable de faire quelque chose de bien, moi aussi. Comprenez ça? Hein? Il faut pas que ça vous blesse ce que je vous dis là. Et je trouve que on doit être vrai entre nous si on veut progresser dans l'amour de Dieu et du prochain. Ça fait pas toujours du bien d'être vrai. Des fois, ça fait un petit quelque chose. T'avais-tu de quoi ajouter?
Comme le berger vient de le dire, ne vous posez pas 1000 questions. S'il vous vient des paroles alors que vous êtes assemblés pour la prière et que ça reste là, levez-vous et donnez-les simplement et acceptez d'être discerné par les autres.
Puis ensuite, c'est que vous vous trouvez à embarquer sur les eaux de la foi. Hein? Quand notre Seigneur a dit à Saint-Pierre, viens sur les eaux. Saint-Pierre, c'est m'a regardé les éléments. C'est ça qu'il faut pas regarder. Il faut pas regarder les éléments à côté, sinon vous allez caler, puis vous n'aurez plus une seule parole, vous allez être tellement gêné que, bon.
Ben, c'est un acte de foi. C'est sûr que la première fois qu'on fait ça, on peut avoir des soirs. Puis avant de se lever, on y va un petit peu serré. Mais on doit vaincre cette espèce de crainte d'être humilié par un acte d'amour. Un acte de foi. Comme à Pierre, le Seigneur a dit, viens sur les eaux. Celui qui se lève pour prophétiser, c'est comme s'il marchait sur les eaux. Le premier pas qu'il donne sur l'eau, c'est les premières paroles qu'il donne. Après ça, vient les autres mots, c'est un autre pas. Puis, il faut pas qu'il dise, ben, je suis sur l'eau, je suppose que je m'en vais, qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est paniqué. Bon. Là, on calme.
Alors, ce qu'il a dit, quand vous en allez sur l'eau, arrivent les premières paroles, arrivent les deuxièmes paroles, mais si vous voulez savoir qui c'est que j'ai dit donc avant, vous allez vous faire prendre. Faut même pas chercher à savoir qu'est-ce que vous avez dit avant, vous continuez votre route. Les autres vont discerner. Comprenez? C'est bien important de pas s'occuper de ça. D'ailleurs, j'ai dit aux frères, quand ils écrivent, parce que ça arrive qu'ils écrivent, je leur dis, ne vous lisez pas. Vous pourrez vous lire à la fin. Mais quand arrivent les paroles, continuez. Et cherchez pas à savoir que vous avez écrit avant. Ça, c'est aller dans la foi. Mais c'est des bijoux qui sortent de ça. Le bon Dieu nous donne des merveilles avec ça.
Par expérience, pour les premiers frères qui ont prophétisé, souvent ils donnaient les premiers mots. Là, ils priaient en langue, ça pouvait être une seconde, deux secondes. À un moment donné, il venait un autre bout, il le donnait. Alors, le bon Dieu nous apprenait la patience. Il nous faisait toucher du doigt que c'est lui qui donne les mots. C'est pas notre esprit qui les force, c'est lui qui les donne. Puis, plus on est docile à ça, plus ça vient facilement.
Il peut arriver qu'on écrit. On a de la difficulté à écrire, puis il y a des fois que les mots viennent aisément et facilement. On les écrit, puis... Mais est-ce que c'est toujours l'Esprit-Saint? C'est ça qu'il faut faire vérifier par un autre ou d'autres. Je vais vous conter un fait qui m'est arrivé avant la fondation de la communauté, donc il y a 35 ans. Il m'est arrivé une bonne épreuve... par des gens du dehors. Puis en pleine nuit, je me réveille. Et ça sortait. Si vous voulez savoir, j'avais une tablette, puis je trouvais donc que j'écrivais bien. Et que c'était beau. Puis c'était plaqué, puis punché bien au vif. J'ai écrit ça durant la nuit. Est-ce que c'était du Saint-Esprit? C'est un autre paire de manches. C'était bien, bien composé. Mais c'était pas l'Esprit-Saint.
C'était à la défense de...
C'était à la défense de M. Jacques Roy. C'est simple, là. Puis des défenses de même, là, c'est pas... Il n'y a rien de moins certain.
J'avais un exemple contraire.
Oui.
Il y avait une dame dont le mari était, avait un cancer. Alors, il était très faible, il ne pouvait plus écrire lui-même. Mais il voulait se réconcilier avec ses anciens confrères de travail. Il voulait tout soit en ordre avant de partir pour aller vers Dieu. Alors, il dit à sa femme, il dit, « J'aimerais ça que tu écrives un mot à mon ancien patron, parce que je sais que dans nos rapports, à un moment donné, il a été blessé par moi. Involontairement, il a été blessé. » Alors, la dame, elle dit, « Je retourne chez nous. » Puis elle dit, « Je t'ai embêté avec ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? » Elle dit, je me couche le soir, je suis un petit peu découragé à cause de ça. Mais elle fait sa prière, puis là, elle se couche. Puis, durant la nuit, elle est réveillée complètement. Elle dit, j'ai un début de lettre qui vient dans mon esprit. Alors, tout de suite, elle dit, je prends mon crayon, j'écris. Elle dit, tous les mots ont suivi. La lettre, ça a été comme rien. Elle n'a pas eu aucun effort à faire pour composer. Puis le lendemain, elle a porté sa lettre à son mari. Il dit, c'est en plein ça. Il dit, j'aurais voulu dire ça. Puis
ça, c'est l'Esprit-Saint.
Ouais, oui. Ça, c'était vraiment l'Esprit-Saint. Parce que elle, au point de départ, c'était un acte qui la renonçait beaucoup. Puis ensuite, c'est un acte d'obéissance à son mari. Parce qu'il lui a dit, écrivait. Puis l'autre chose, ça l'a provoqué la paix au niveau de son mari. Et elle-même, ça l'a mis dans la joie d'avoir obéi, d'avoir fait la démarche. Puis pour ce qui est du monsieur qui l'a reçu, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait.
Thank you. Oh.